Bienvenue à Fréquence Diversité, un balado de GoFM rendu possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Ici, on explore, on questionne et on démystifie les réalités des communautés LGBTQ+, dans l'Est ontarien et ailleurs. À travers des discussions authentiques, on donne la parole à celles et ceux qui façonnent la diversité d'aujourd'hui. Dans cet épisode, Lys discute d'homoparentalité avec Isabelle.
Allô Isabelle.
Salut.
Veux-tu m'en dire un peu sur toi et sur ta famille?
Je suis en couple marié avec une autre femme. On a ensemble un bébé qui a 3 ans et j'ai déjà d'une union précédente 3 autres enfants qui vont de 13 ans à 17 ans.
Puis, y a-tu, mettons, des défis à relever au quotidien avec une famille, avec des enfants qui viennent d'une précédente union? Puis du côté homoparental.
J'aurais le goût de dire que c'est comme n'importe quelle famille qui est reconstituée, dans laquelle, oui, il y a des défis qui viennent parce que on fait de l'éducation d'enfants dont le parent, l'autre parent n'est pas le parent biologique, si tu veux, parce que moi, j'ai la garde complète des 3 autres enfants. Alors...
OK, quand même. Puis, mettons, là, tu sais, justement, il y a comme les mythes qui disent que les enfants qui ont des parents homoparentales, ils vont avoir comme des problèmes plus tard. T'es zéro d'accord avec ça, là, c'est pas vrai du tout.
Non, parce non. Je vois aucune différence pour vrai. Non. Puis même, peut-être qu'ils ont une sensibilité différente, justement, aux enjeux de la différence, parce qu'ils vivent dans une famille qui est différente, nécessairement.
OK, puis t'as... Mettons, justement, par rapport à la différence, tu penses-tu que ça peut... arriver à l'école, que les jeunes, ils se font regarder comme d'une drôle de façon?
Les enfants m'en ont jamais parlé de ça, que si c'était arrivé, mais j'ai eu l'impression que c'est jamais arrivé parce qu'ils m'en auraient parlé, parce qu'on est assez ouverts là-dessus.
Ah.
D'ailleurs, il y a des choses, par exemple, tu sais comment c'est l'adolescence, où est-ce que là, il y a des choses qu'on veut pas dire nécessairement à nos parents. Mais moi, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent à ma conjointe.
Ouh.
Alors, ça fait une dynamique le fun, quand même. Comme ça, on travaille justement en duo là-dedans, dans l'éducation, dans leur développement d'adolescence, d'adolescents. Mais sinon, est-ce qu'ils ont vécu des enjeux? J'ai l'impression que non, parce qu'ils amènent des enfants, d'autres amis à la maison, puis on va à des fêtes, on partage, puis jamais il y a eu de situation où ils ont dit « Ah ben, j'aimerais mieux que tu viennes pas » ou des choses comme ça. Par exemple, au bal de finissant de ma fille, elle a préféré que ce soit moi et ma conjointe qui viennent plutôt que moi et son papa pour une raison X, Y, Z, là, tu sais, qui lui appartient. Puis on l'a laissé libre là-dedans de choisir avec qui elle voulait y aller, là.
Mais c'est absolument correct pour ça. Puis tu sais, c'est le fun de voir que... Il y a des familles qui sont super comme soudées là-dedans. D'ailleurs, tu sais, tu parles de papa. T'as un jeune garçon, c'est ça?
Le dernier, ouais, c'est un garçon.
Le dernier.
Ouais.
Tu penses-tu qu'il peut avoir une sorte d'impact parce qu'il n'y a pas de figure, pas paternelle, mais comme masculine?
Ben non, il y en a plein. Il y a un grand-père.
Oh,
bon, mon père à moi est encore vivant et présent.
Comme très proche.
Oui, oui, oui. Il y a une figure paternelle qui est là. Il y a une autre figure paternelle qui est quand même étrange, vous allez dire, là. Mes enfants qui sont plus vieux, à quelque part, deviennent des figures qui sont presque... Ben, en tout cas, c'est des hommes qui sont pré-adultes. Le plus vieux va avoir 16 ans bientôt, donc nécessairement, il y a une relation avec qui est plus... masculine, si tu veux. Là.
Comme un peu comme aller jouer au ballon dehors,
ouais.
Le football, puis tout ça.
Oui, oui, puis jouer, puis se batailler, puis avoir des choses qui sont plus rudes des fois avec...
Comment t'as fondé ta famille? Comment t'as eu ton dernier enfant, si je peux poser la question?
Bien sûr, tu peux la poser. Bon, alors, là, il faut savoir que nous, on est une famille... reconstitué homoparental, mais aussi avec une différence d'âge où on a 13 ans de différence.
Oh!
Alors, ma conjointe a 13 ans plus jeune que moi.
Okay.
Alors, ça, c'est un autre enjeu, dans le sens où quand, à un moment donné, on s'est dit « Ah, ça serait peut-être le fun d'avoir un enfant qu'on partage ensemble. » On dit « OK, oui, on le fait comment? » Tu sais, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Bon, On aurait pu prendre un ami qui nous partage son stepperm, on l'insémine un peu, façon
ouais,
de parler, puis elle aurait eu un bébé. Hein?
OK. Fait que ça aurait été elle qui aurait porté l'enfant.
Ouais. Okay. On aurait pu faire la même chose avec moi. On aurait pu acheter aussi du sperme ailleurs aux États-Unis. Généralement, au Québec, on va acheter aux États-Unis pour éviter la consanguinité puis tous les problèmes génétiques que ça peut causer.
Consanguinité? Écoute, je pensais pas qu'on évitait d'acheter au Canada pour ça, la consanguinité.
Ouais, pour éviter qu'à un moment donné, il y ait une concentration des gènes. Ouais, mais parce qu'à un moment donné, il y a eu des histoires comme ça où des femmes ont voulu avoir des enfants pour toutes sortes de raisons, soit des solos ou bien des homoparentales, n'importe quoi. Puis elles ont fait affaire avec des hommes qui, sur Facebook, n'importe quoi, là,
sur
disaient,
Facebook.
Oh ouais, moi, je partage parce que Dieu m'a dit qu'il fallait que je partage ou n'importe quoi. Mais ces hommes-là, à un moment donné, on s'est aperçu qu'ils donnaient beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oh non.
Mais c'est parce que ça fait des demi-frères, demi-sœurs un peu partout au Québec.
Oh. Oh non.
Ouais, puis là, ben, ces demi-frères, demi-sœurs, à un moment donné, le hasard pourrait faire qu'ils se rencontrent. Puis qu'il va y avoir des enfants ensemble.
Fait que là, il y a comme ces possibilités-là. Toi, t'es passé par quoi?
Bon,
si c'était là, pas ça.
Moi, comme j'avais, quoi, 45 ans, peut-être quand on a commencé le processus, là, c'est vieux pour avoir des enfants. Donc, mes ovules sont vieux. OK?
OK.
Ma conjointe ne souhaitait pas porter un enfant. Pour elle, ça fait pas partie des nécessités de sa vie.
Les filles qui enflaient, avoir un ballon de baleine, pas être capable d'attacher ses souliers, c'était trop compliqué.
Ouais, elle, ça y tentait pas. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé les ovules chez elle.
OK.
On les a fécondés avec nous. On a acheté aux États-Unis le sperme, si tu veux, donc la partie du donneur, qu'ils ont fécondé. Ils ont laissé ça croître jusqu'à 5 jours. Là,
OK, 5 jours.
Ils ont gelé. Ouais. Après ça, ils ont gelé ça. Là, nous, on a gelé 17. Parce que, puis 17, c'est beaucoup, là, quand ils font des prélèvements, okay. Là, c'était comme, wow, il y en a 17. Il y en a qui réussissent à prendre un ovule, deux ovules. Nous autres, on a eu jusqu'à 17 au moment où on l'a fait.
OK, fait que ça, c'est comme chanceux, là. C'est,
ben,
comme
c'est
beaucoup.
Un processus où est-ce qu'elle doit se faire des injections, tout le kit, pour favoriser, justement, la maturation des ovules.
Oh, mon
puis là, ben,
Dieu.
Quand c'est prêt, là, on va en clinique, puis là, ils prélèvent les ovules. Puis elle en avait 17 qui étaient à maturité. Ça avait réussi à faire ça. Donc, après ça, ils fécondent les ovules, donc ils en fécondent 17. Là-dessus, ils prennent ceux qui sont le plus wow. Ils vont du meilleur au moins bon. Puis là, ben, quand ils commencent, là, c'est moi qui devais porter les enfants. Puis on trouvait ça le fun aussi dans le processus de partage. Où est-ce que, génétiquement, moi, finalement, j'ai rien à faire dans cet enfant-là. Ah ouais, parce que c'est son ovule et quelque chose qui vient d'un donneur. Fait que génétiquement, moi, j'ai rien. Mais c'est moi qui l'ai porté, par contre. Alors, c'est comme ça. Alors, on a fait une première implantation dans laquelle je suis tombée enceinte. Mais le bébé s'est rendu à terme. Après ça, on a fait deux autres qui n'ont pas fonctionné. Et c'est au quatrième que là, ça a fonctionné. Mais alors là, j'avais 49 ans quand j'ai eu le bébé.
Ben, écoute, là, je n'aurais pas d'importance. Ça fonctionne,
ça
écoute.
Ça a fonctionné.
Puis, mettons, l'enfant, est-ce qu'il pourrait rencontrer son père?
Ouais, nous, on a permis ça.
OK.
Alors, quand, par exemple, on fait l'achat de cette partie génétique-là, ben, on dit si on veut que l'enfant ait accès à ça. Puis, il y a aussi, selon la banque auquel on achète, ben, eux, il y a des banques qui sont complètement fermées, donc le donneur donne puis il veut aucun contact, puis il y en a d'autres que le donneur dit oui, moi je voudrais. Alors, ce donneur-là a dit oui, puis nous autres, on a donné la possibilité à notre enfant que si jamais il voulait, ben, il pourra le faire.
Est-ce que c'était comme beaucoup comme de paperasse à remplir puis de papier?
Non, pas tant.
Pas tant, fait que là, c'est quand même assez simple, entre guillemets.
C'est assez simple de la façon administrative. C'est assez cher, par contre, financièrement.
Comment tes parents l'ont pris avec ton coming out et la nouvelle relation et l'enfant et tout ça? Comment ça s'est passé?
Ben, la nouvelle relation, ça a été correct. Là, t'sais, une fois que j'ai dit, bon, ça allait être ça, bon. Puis à un moment donné, ils avaient vu là, venir les choses.
Ils l'ont vu venir?
Ben, un peu, là. Tu sais, quand... Ben, un, j'avais mis fin à une relation, à la première relation avec le papa, nanana. Puis là, après ça, ben, quand tu jases, ah oui, j'allais faire telle chose avec telle personne, puis que là, telle personne, elle revient souvent, ben, à un moment donné, pas nono, là.
il y a les signes.
Oui, c'est ça. Donc, ça s'est bien passé. Frère, soeur, ça s'est bien passé. Pour le bébé, ça a été un peu plus difficile.
Ouh.
À cause de l'âge que j'avais. Tu vois, c'est pas à cause que j'étais avec...
c'était pas la relation, c'était l'âge.
Ouais, ben, je dirais que ma mère a un peu plus réagi, justement, parce que, ben, elle sait ce que c'est porter un enfant, elle en a porté aussi, nécessairement. Et là, elle se disait, oh, mais là, ça va être plus difficile, tu sais, tu t'embarques dans quelque chose dans lequel on met un enjeu supplémentaire dans la difficulté d'une grossesse, par exemple, de mener à terme, de tout ce que ça implique, okay. Tout ça. Fait que, pour elle... C'était inquiétant.
OK.
Ouais.
Puis toi, t'as pas eu de problème de santé avec cette grossesse-là, puis ça va bien?
Bon, la quatrième... Cette grossesse-là était un peu plus difficile que les autres. Est-ce que c'était dû à mon âge? Pas nécessairement. Je pense que c'était juste le hasard, là. Bon. Nous, on a choisi d'avoir... Ben, on a choisi. Façon de parler. Mon médecin de famille est en Ontario.
OK. Okay.
Mes trois premiers enfants sont nés en Ontario. Et quand est arrivée l'histoire du quatrième, on dit « OK, est-ce qu'on poursuit avec l'Ontario ou on va au Québec? » Et on a choisi de poursuivre en Ontario parce qu'en Ontario, l'autre parent devient automatiquement son parent. Tandis que si l'enfant était né au Québec, ma conjointe aurait dû adopter l'enfant.
Oh mon Dieu!
Qui est génétiquement le sien? T'sais, génétiquement, il y a 50% de sa génétique qui est elle. Mais comme c'est moi qui l'ai portée, moi, automatiquement, je devenais sa mère. Mais au Québec, elle aurait dû l'adopter.
Oh my God, il y a tellement de paperasses et de choses que je comprends pas.
Ouais, fait qu'en Ontario, c'était automatique. Elle devenait sa mère automatiquement. On devenait deux mères.
Tu sais, il n'y a pas de guide pour être maman.
Mm-mm.
Ta conjointe, c'était-tu son premier enfant?
Mm-hmm.
Ouh.
Ah, c'était très drôle.
Oh, raconte-moi ça.
Ben, quand j'ai accouché, l'accouchement était un peu difficile pour toutes sortes de raisons et ça finit en césarienne. Et oh. Elle avait jamais seulement pris un enfant dans ses mains.
Oh mon Dieu.
Puis, elle est enfant unique en plus, tu sais. Fait qu'elle n'a pas eu d'autres petits frères, petites sœurs, des choses comme ça. T'sais, son premier contact avec les enfants, c'était mes enfants, là, quand on a commencé à être ensemble. Alors, là. Quand tu as une césarienne, c'est une opération. Donc, quand ils ont fini de t'opérer, ils te gardent. Ils ne t'envoient pas tout de suite dans ta chambre avec ton bébé. Mais là, ils l'envoient, elle, avec le bébé en haut, dans sa chambre. Mais dans la chambre. Mais là, elle dit, après ça, elle dit, je ne sais pas quoi faire. Là, je me disais juste, il ne faut pas qu'elle arrive rien. Je sais pas quoi faire.
Oh non.
Mais probablement que les infirmières là-bas ont pris pour acquis que parce que c'était une femme, elle savait quoi faire. Mais non. C'est comme quelqu'un X qui a jamais eu d'enfant, que ce soit un homme ou une femme, il saura pas plus quoi faire. Mais ils ont
pas qu'il passe une femme qui saurait. Oh my God, c'est quand même une drôle d'anecdote, je m'y attendais pas.
Ouais, fait que, ouais, mais elle, c'était son premier enfant, donc elle a appris au fur et à mesure. Bon, moi, j'avais plus d'expérience, j'avais trois autres, donc...
Puis je pensais à ça, tu m'as dit, tu sais, avec tes autres enfants, est-ce qu'ils appellent ta conjointe maman?
Non. Moi, je suis maman.
Toi, t'es maman?
Oui.
Ouais, conjointe, c'est?
C'est par son prénom.
Par son prénom,
ouais.
OK.
C'est par son prénom. Et ce qui est drôle, c'est que le bébé, le dernier...
Il l'appelle pas par son prénom?
Il l'appelle par son prénom, puis moi, il m'appelle maman. Parce qu'il fait du mimétisme. Les autres, ils nous appellent comme ça, fait qu'il a fait pareil. Puis là, ben, quand c'est arrivé, ça, la première fois, je l'ai regardé, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu qu'il t'appelle maman ou tu veux qu'il t'appelle par ton prénom? Elle dit, ça me dérange pas. C'était certaine, parce que si tu veux qu'il t'appelle maman,
On va commencer à ça, dire t'sais. Comme le mot.
C'est ça. On va juste le renforcer. Puis tout ça, elle dit non, c'est pas important. Elle dit, tout le monde m'appelle comme ça de toute façon. Parce qu'avec son prénom, il y a un diminutif. Tout le monde l'appelle par son diminutif. Fait que.
Ça te dérangeait pas au final.
Pour elle, non. Fait qu'il l'appelle par son prénom. Puis moi, il m'appelle maman.
OK. Puis, mettons, là, tu sais, vous êtes déjà deux mamans dans cette relation-là. Ta plus vieille, c'est une fille. C'est une fille, c'est ça. Est-ce que. Tu trouves qu'elle prend un peu son rôle aussi comme de maman là-dedans?
Ben oui, cet enfant-là, une troisième maman, là, c'est clair. Tu sais, quand cet enfant-là est né, elle avait déjà 14 ans, ish, là. Fait que non, mais c'est sûr, là. Puis souvent, les gens qui vont me demander comment c'est d'avoir un enfant à cet âge-là, quand on a déjà trois autres, ben la différence d'âge est tellement grande, tu sais, là, il y avait comme 10 ans de différence entre mon dernier et là, le nouveau bébé quand il est arrivé, ben c'est simple, t'as tout plein de bras pour tout ce que tu veux faire. Alors quand ton bébé est tout petit, tu dis, hey, est-ce que quelqu'un peut venir, je sais pas, laver la vaisselle, partir une brassée de linge, tu sais, dans la laveuse, ben y a tout le temps quelqu'un qui est disponible pour le faire, qui peut le faire, là. C'est beaucoup plus simple.
C'est cute comme dynamique parce que j'ai l'impression, genre, dans ta famille, tu sais, c'est tout le monde s'entraîne, puis je trouve ça beau. Je trouve que c'est beau parce que tout le monde est là. Il y a comme. On dirait qu'il y a quasiment pas de défi. Ou je suis comme complètement dans le champ gauche, puis il y a comme un.
Il y a des défis comme dans n'importe quelle famille, dans le sens où ce sont des adolescents, puis des fois, ben, ils s'entendent pas tous ensemble, puis des fois, je leur demande de ranger leur chambre, puis ils rangent pas leur chambre, comme n'importe où. Ou ailleurs, là, ça, c'est clair, là. Cette réalité-là, c'est la même chose. Là.
Mettons, là, comme avec ce qui était, genre, parler justement aux adolescents, mettons, sujet, genre, sexualité, comment tu t'es pris, mettons, tu sais, je sais que t'as un garçon, de ce que j'ai compris, t'as une fille, un garçon?
Une fille, deux garçons, puis le bébé.
Ouais. OK, une fille, trois garçons.
Ouais.
OK. Comment vous allez vous y prendre pour, comme, l'espèce de parler sexualité?
Mais avec les trois grands, c'est généralement moi qui m'en occupe parce que ce sont mes enfants à moi.
Okay.
Par contre, il arrive des fois... Tiens, je vais donner un exemple. On est en train de manger récemment autour de la table. Là. Et tu sais que là, tu sais, il y a comme un retour du pendule vers la droite un petit peu. Puis là, t'as un de mes gars qui dit « Hey, c'est fif ça. »
Oups!
Fait que là, on s'est toutes les deux retournés, on l'a regardé. Puis là, on dit « pas ça. » Quoi, ça dérange pas, c'est comment sont les ados, pas grave. Non, non, mais là, on va t'expliquer les choses, là. Tu sais, ce que tu fais là, tu fais du dénigrement, nanana, puis là, on en a parlé tout le monde ensemble.
OK, comme ouvertement à la table, tu sais, c'était pas un sujet que je te prends à part dans ta chambre.
Non, ça, on a parlé tout le monde ensemble parce que, ben, c'est une façon de s'exprimer, ça fait partie des valeurs, ça fait partie d'ouverture, ça fait... Ouais, ça, quand tu fais ça, tu fais du dénigrement, tu fais de l'intimidation, tu fais... Non, tu t'adresses pas à quelqu'un en disant « qui est fif », par exemple.
Est-ce que tu penses que le fait d'avoir deux mamans, ça pourrait affecter... Pas affecter, mais avoir un impact sur leur sexualité plus tard?
Non. Ben, je verrais pas pourquoi ça aurait un impact. Ben, probablement que ça fait des enfants qui sont justement plus ouverts à cette diversité-là et qui peut-être se posent moins de questions à dire ou qui se restreignent moins.
OK, ouais. Ouais,
peut-être
ouais.
Plus dans ce sens-là. Je vais écouter dire. Puis que si jamais, pour eux, dans leur tête, arrive le jour le questionnement de OK, est-ce que j'aime mieux être avec un gars ou une fille ou ben, ça sera pas grave que parce la réponse
c'est comme
soit
moins
n'importe
de pression.
Quoi. Ouais.
Est-ce que les valeurs traditionnelles sont, mettons comme les valeurs traditionnelles, genre l'homme qui fait, je sais pas moi, qui construit les maisons, les balcons, la tondeuse, tu penses-tu que les valeurs traditionnelles comme de la chevalerie, si je peux appliquer ça comme ça, ils vont être encore présentes?
Ben justement, je pense que c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas cet esprit-là derrière. Donc, si par exemple, ma fille a le goût de prendre un marteau, ben elle a vu un modèle de moi qui prend le marteau des fois pour réparer des bidules dans la maison. OK? Puis en même temps, tu sais, mes garçons voient des modèles où est-ce que une ou l'autre on fait de la bouffe ou une ou l'autre on fait n'importe quoi. Donc, je pense que ça ouvre justement à enlever ces stéréotypes-là.
Est-ce que t'as une expérience que t'aimerais me parler de, justement, en tant que maman homoparentale?
Tu sais, c'est drôle, quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est une famille différente. Mais c'est une famille pareille comme toutes les autres familles. Dans ma tête, moi, il n'y a vraiment pas de différence avec n'importe quelle famille que je rencontre. Il y a juste deux personnes qui élèvent un enfant, qui transmettent des valeurs à une famille, qui éduquent des enfants, qui vivent ensemble. Donc, est-ce que j'ai vécu des expériences, tu sais? Pas tant, parce que c'est tellement dans ma tête juste normal, c'est juste comme ça, c'est tout, point.
Mettons, je retourne du côté des réseaux sociaux. Tu sais, il y a des groupes, mettons, LGBTQ+, qui sont vraiment partout. Est-ce que tu fais partie des groupes?
Non, pas tant. Honnêtement, justement, on discutait de ça il n'y a pas longtemps, qu'on n'est pas toutes les deux. Tu sais, on va pas à la parade, à la fierté gay. Pas pour qu'on est contre. C'est juste, on n'a pas de besoin de s'afficher, on n'a pas de besoin d'être des porte-étendards. Parce que, ben peut-être parce que justement, puis ça revient à ce que je disais tantôt, que pour nous, on est juste dans une famille, puis on est juste des personnes normales. C'est juste comme ça que ça se passe, point. Sans se poser plus de questions. Donc, on n'a pas, puis probablement que nos rôles dans la vie aussi, autres professionnels, font qu'on n'a pas de besoin de défendre, tu sais, d'être des preux chevaliers en avant, puis de défendre ça.
Tu parles du côté professionnel? Tes collègues, savent-tu que t'es une maman homoparentale?
Ben oui, ils savent. Ben oui, ils ont fait plein de blagues avec ça. Là. À un moment donné, on est autour de la table, puis là, on est plein de monde. Puis là, on parle, vient le sujet, tu sais, c'est avant de réunion, puis là, vient le sujet d'une... on parle de nos conjoints. Puis là, il y en a qui n'ont pas de conjoints. Puis il y a des hommes qui ont des conjointes. Puis là, il y a moi. Puis là, on finit, on fait pas se regarder, puis on dit, ben, nous autres, autour de la table, tout le monde a des conjointes.
Ah, c'est bon.
Donc, on fait des blagues avec ça, c'est correct. C'est certain que... il y a encore plein d'enjeux dans la société. Et tous les documents administratifs, gouvernementaux, sont tous faits avec un papa et une maman.
Oh!
Et ça existe. T'sais, ça, c'est encore comme ça. Et ça, c'est des fois frustrant parce que tu te dis, OK, on est dans une société. Puis je pense qu'on est dans une société privilégiée, là, au Québec et au Canada. Là,
absolument.
C'est une société qui est privilégiée, dans laquelle l'acceptation, elle est relativement grande. Il y aura toujours des choses qui ne fonctionneront pas, mais comme dans n'importe quoi, là. C'est normal. On accepte que les gens de même sexe puissent se marier, on accepte qu'ils peuvent avoir des enfants, puis tout ça. Mais nos documents administratifs sont toujours rédigés comme un homme et une femme.
Fait que comment vous faites pour remplir vos documents administratifs?
On raye.
On raye. Ah, oh, c'est bon,
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Puis tu sais, tu parlais comme administratif, tu m'as fait réaliser, tu m'as dit que tu étais mariée.
Mm-hmm.
Comment ça s'est passé?
Ben, ça arrive là 2 ans. Elle souhaitait qu'on se marie, alors il y a eu comme une demande en mariage. Là, comme...
parce que c'est pas toutes les églises qui acceptent.
Ben, on s'est pas marié à l'église, on s'est marié civilement.
Ah! OK.
Ouais, on peut pas faire de mariage religieux. Ah, ça va m'amener à peut-être parler d'autre chose. Ben, je continue sur mon mariage avant.
On fait pause sur le premier.
Ouais, c'est ça. Donc, mariage, ben, c'est un mariage civil. Donc, un de mes amis a rempli les documents nécessaires administratifs pour être notre célébrant. Puis, on a invité la famille, puis on a fait le mariage.
Encore plus de papiers à remplir.
Ouais, ben, ça, c'est normal. C'est un contrat. Un mariage, c'est un contrat. Alors, le document... administratif à compléter. C'est un contrat. Là, que...
C'est comme quelqu'un qui lit un document à l'avant comme à l'église aussi?
Oui, il y a une partie que ce soit mariage civil ou religieux, c'est la même chose là, parce qu'il y a une partie qui est du côté des fonctionnaires, si tu veux, là, qui est gouvernementale. Donc, que tu acceptes que tu vas prendre soin de l'autre personne, que tu deviens...
À la vie, à la mort.
Ouais, jusqu'à la fin du mariage, en tout cas.
On va espérer que ce soit quand même à la vie, à la mort.
Ah, ouais, ouais, c'est ce qu'on souhaite toujours quand on le fait, quand même. Ce que je voulais dire, c'est... Ah oui, quand j'ai eu mon bébé, bon, mes 3 premiers enfants ont été baptisés.
OK.
OK. Parce que c'est dans le contexte d'une famille nucléaire. Et là, quand est arrivé le dernier, ma mère me demande, est-ce que vous allez faire baptiser le bébé? Puis je dis non.
Non?
On peut pas.
Hein?
On peut pas, parce qu'on est 2 femmes, puis l'Église catholique n'accepte pas 2 parents du même sexe. Fait qu'on peut pas. Le bébé, lui, peut pas être baptisé parce que ses parents, ce sont 2 mères.
Puis, il pourrait pas se faire baptiser comme lui-même plus tard?
Lui, plus tard, pourrait décider, ouais.
Oh my God!
Nous, on peut pas faire la demande qu'il soit baptisé parce qu'on est 2 femmes.
Même s'il y a comme un papa présent quelque part... Comme biologiquement, ça fonctionne pas.
Il n'y a pas un père. Un père, c'est quelqu'un qui... Ça, c'est une autre discussion que j'ai eue avec mes parents. Parce que mes parents disaient, « Ouais, lui, son père, non. » Cet enfant n'en a pas de père. Il a 2 mères. Parce qu'un père, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'enfant, qui en prend soin, okay, qui transmet des valeurs, qui, quand il est malade, qui va se lever la nuit pour aller donner du sirop puis le bercer. C'est quelqu'un qui va aller reconduire au hockey, qui va, tu sais, ça, c'est un père.
Qui va être présent.
Ouais. D'une façon ou d'une autre, tu sais, parce que des fois, on sait qu'il y a des pères qui sont pas beaucoup présents pour toutes sortes de raisons, mais ils font partie de la vie d'eux. Cet enfant a pas un homme qui fait partie de sa vie dans ce sens-là. Donc, il y a un géniteur qui a transmis son bagage génétique, mais il n'y a pas de père.
OK. Puis, à l'école, là, je pense à ça, les réunions, comme, pas réunions, mais tu sais... A apporte papa pour X, Y, Z apporte maman. Est-ce que il y a quelqu'un qui va aller jouer le rôle de papa entre toi et ta conjointe quand il y a des affaires comme ça qui arrivent?
Ça, c'est très drôle. Parce que là, il va à la garderie. Oh! Cet enfant va à la garderie. Et quand arrive la fête des pères, ben, on reçoit une carte de fête des pères à la maison.
Oh non!
Mais cet enfant-là, là, il y a 3 ans, il n'a aucune espèce d'idée de ce que c'est. Là,
il fait du coloriage dessus, puis...
Ouais, lui, c'est pas, là. Mais éventuellement, il va dire... Ben, moi, je me dis, éventuellement, il va dire, moi, j'en ai pas de père, là. Mais il y a des gens, je sais que j'ai des amis dont les enfants, dans ce temps-là, ce qu'ils font, les éducatrices ont une sensibilité, parce que les éducatrices, clairement, ils savent qu'on est deux mères, là. C'est moi qui vais le porter le matin, puis c'est elle qui va le chercher le soir, tu sais.
Fait comme ils le voient, mais sinon, est-ce que ça vient qu'à être dit à un moment donné? Mettons comme que l'éducatrice, là, sait pas, puis qu'elle dit « Ah, oh, papa, blablabla », est-ce que ça vient qu'à être dit? Est-ce que c'est lui qui doit aller dire?
Je sais pas comment il organise dans la garderie pour ça, là, j'ai aucune idée. De mon point de vue, c'est du ressort de la garderie, là, de transmettre ces informations-là, là, ouais, c'est ça. Alors, ben c'est ça, on reçoit une carte de fête des pères, mais je sais qu'il y a des garderies où est-ce que dans ce temps-là, quand ils savent que c'est deux mamans, ben ils vont faire une carte pour le grand-papa, ils vont faire une carte pour, tu sais...
Oh! Ça, c'est cute.
Pour pas empêcher l'enfant aussi de participer à la fête que tout le monde fait, là, tu sais, tout le monde fait la même chose en même temps, c'est le fun, ça. Ben ils font juste faire un petit transfert, ben toi, tu vas le faire pour le grand-papa, tu sais.
OK, fait il y a comme des alternatives qui sont quand même là.
Ouais. Ça peut. C'est facile, s'organiser. Il faut juste réfléchir et être créatif, là. Mais sur ta question de, mettons, ils te disent « Papa, invite ton papa ou invite ta maman, par exemple, pour telle activité », ben jusqu'à maintenant, ça n'a jamais eu lieu, mais... tant pis, là, moi, j'irai. Ben, tant pis. On va y aller, moi. Je veux,
tu sais... Tu vas te chier, je vais être le parent. L'arrière, là, tu vas te mettre une petite chemise... Une bonne cravate, puis tu vas faire une moustache au mascara.
Ouais, va être le parent qui va y aller, c'est tout. Mais tu sais, nous autres, on n'en fait vraiment pas de cas. Dernièrement, le dernier bébé a eu une invitation pour une fête d'amis. Mais les autres parents, là, je sais pas jusqu'à quel point ils savent que cet enfant-là a deux mamans. Mais là, à 3 ans, tu t'envoies pas ton enfant dans une fête d'amis, puis toi, tu y vas pas, là, tu es à la fête t'es d'amis là, aussi. Au cas là. Où. Mais là, on est allés toutes les deux. OK, les deux mamans, on était à la fête d'amis, puis bon, il y a personne qui a rien dit, là.
Est-ce qu'il y a déjà des enfants qui t'ont posé des questions sur ta relation?
Non.
Tu sais, justement, vu que t'es avec comme une autre femme?
Non, c'est jamais arrivé.
Jamais? Fait que comme, là, tu sais, tu m'en parles avec moi, tu réponds à toutes mes questions. Et là, je me sens comme une intruse, je vais être la première à t'en avoir posé.
Non, jamais arrivé. Puis tu vois, moi, les enfants, les grands, invitent des amis à la maison, puis ils savent, là, tu sais, à un moment donné...
Ouais, tu sais, ça finit par venir sur le sujet, tu sais, à l'école. Ah, oh, j'ai deux mamans, puis c'est ça... Ben, j'ai une maman, puis j'ai une je sais pas c'est quoi le nom de ta conjointe.
Une belle-mère, c'est leur belle-mère. Ah, oh, eux autres, ils disent c'est ma belle-mère.
Ah!
Ah
oh,
oui.
C'est inclus, c'est acquis.
Ah oh, oui, eux autres, ils ont une mère puis une belle-mère.
Mettons, là.
Ils ont deux belles-mères, ils trouvent ça drôle.
Ils ont deux belles-mères.
Parce que leur papa a une nouvelle relation, fait qu'ils ont deux belles-mères.
Ah, oh, c'est quand même drôle! Puis, mettons, là...
Mais il faudrait, à un moment donné, je leur pose la question sur comment... Ils nous présentent, tu sais, avec des nouveaux amis, des nouvelles relations, qu'est-ce qu'ils disent? Il faudrait que je leur pose cette question-là.
Parce que, genre, ils pourraient comme pas avoir un sentiment de différence. C'est comme à ça que je pensais un petit peu.
Ben, je travaille dans une école, donc j'en vois des situations où est-ce que il y a des enfants qui vivent des enjeux parce qu'ils ont, ils sont dans des familles homoparentales, par exemple. Il y a des enfants qui vivent ça... normalement, puis il y en a d'autres pour lesquels c'est plus difficile, c'est plus compliqué, ils sont plus gênés quand arrive le temps, par exemple, de parler de leur famille.
Oh ouais.
Ça arrive. Puis c'est le fun quand les parents nous le disent. Moi, je suis à la direction, c'est le fun quand les parents nous le disent, parce que dans ce temps-là, on peut travailler avec le parent, puis avec les enfants dans le même sens, tu sais, pour faciliter les choses.
Comment tu travailles avec un parent, justement, pour aider comme à cette situation-là?
Ben, on peut offrir des ressources. Dans les écoles, souvent, on va avoir des psychoéducateurs, genre de choses comme ça. Donc, on peut offrir des ressources pour le parent, pour l'enfant surtout, parce que c'est l'enfant qui le vit là, dans le milieu scolaire. Là. Le parent, ben, c'est le parent, quand il sent que son enfant, il est bien entouré à l'école, souvent, ça va le rassurer.
Puis, mettons, là, ces réseaux sociaux, tu sais, tu me disais que tu lisais beaucoup, là, tu sais, on parle de la représentation. Tu trouves-tu qu'elle est assez présente et assez respectée pour les familles homoparentales?
dans mon cas, moi, j'ai jamais rien vu qui était négatif, dans lequel c'était irrespectueux. Moi, j'ai jamais eu vécu de commentaires négatifs.
Oh my God, je pense que t'es chanceuse de voir parce que...
Probablement, mais ça dépend probablement comment on aborde les choses. Moi, dans ma vie, j'aborde ça comme une chose normale, comme la normalité. La vie a fait que mes amis près de moi, c'est aussi probablement des gens qui ont des valeurs semblables aux miennes. Puis mes amis, je les avais avant. Et j'ai pas d'amis qui ont dit « Oh, moi, je veux plus te voir maintenant quand j'ai changé de vie. » Là, disons ça comme ça.
Ben c'est quand même triste. C'est comme tu vois tes vrais amis qui restent parce qu'ils t'aiment pour ta personne et non pour ta sexualité. Parce que c'est vrai que c'est déjà arrivé pour plusieurs personnes.
Ben oui.
Je m'en excuse à toutes les personnes à qui c'est arrivé puis qui vont écouter ce podcast. Et justement, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de hate sur les personnes LGBTQ. Puis même s'il y a eu beaucoup de mouvements, le Pride Month, tout ça, ça reste qu'il y a tellement de commentaires négatifs. Fait que tu sais, je me demandais justement par rapport à ça, si toi t'en avais reçu, mais si tu me dis que non, c'est vraiment tant mieux.
Non. Mais en même temps... Je me suis jamais empêchée de rien faire. Je me suis jamais empêchée de rien publier. En même temps, tu sais, j'avoue que j'ai pas, je sais pas moi, tu sais, une chaîne ou n'importe quoi. J'ai pas 10 000 followers ou n'importe quoi qui me suivent ou n'importe quoi. J'ai pas ça. Peut-être que si j'avais ça, là, ce serait autre chose. Mais tu sais, ma vie est ma vie, puis c'est tout, là. Puis. Je trouve ça le fun que de plus en plus dans les médias. Par contre, tu sais, je te disais, moi, je me sens pas un porte-étendard, mais par contre, dans les médias, puis tantôt on parlait de Catherine Levac, puis il y en a d'autres, il y a Ariane Moffat, qui sont des belles représentations positives aussi dans notre société, qu'ils ont une famille dans une relation homoparentale, ça fonctionne bien, puis, tu sais, les gens les apprécient pour ce qu'ils sont. Puis je trouve que c'est des beaux modèles aussi dans notre société. Et quel message j'ai le goût de laisser, là, c'est chacun vit sa vie comme il l'entend. Puis s'il est heureux dans sa vie, ben je pense que ça se dégage, puis que les gens respectent ça, tu sais.
Je pense que c'est un message qui est important à passer. Écoute, merci Isabelle. On va arrêter ça là.
Avec plaisir.
Fréquence diversité, un balado de GoFM rendu possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire.